peut-être bonjour. Ici à Paris, il est 19h.
RFI Soir, Philippe Le Caplain.
Décryptage, commentaires et analyses à suivre dans RFI Soir, mais tout de suite le journal. Ce sont des centaines d'Alaouites qui ont été tués par les forces de sécurité et leurs alliés en Syrie. Ces gens faisaient partie des partisans du clan de Bachar al-Assad. Des milliers de manifestants en France pour l'égalité femmes-hommes, cela à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. En rugby, le tournoi des Six Nations et la France qui triomphe 42-27 en Irlande. Damien Penaud a marqué son 38e essai avec le 15 de France, égalant le record détenu jusqu'alors par Serge Blanco. La chasse au clan Assad continue en Syrie. 532 Alaouites ont été tués par les forces de sécurité et leurs alliés. Ce nouveau bilan est fourni par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les exécutions et massacres ont eu lieu dans les régions de la côte syrienne et dans les montagnes de Latakié, Mohamed Erami.
La situation sécuritaire reste instable dans les villes côtières syriennes. Elles ont été requalifiées en zone militaire par les autorités gouvernementales compétentes. Leur accès est désormais interdit sans autorisation de l'armée. Les commandements des opérations militaires ont également déclaré avoir pris le contrôle total des villes de Latakié et Tartous, tout en poursuivant les combattants qui continuent de mener des attaques sporadiques contre les forces de sécurité déployées sur place, ainsi que contre les bases militaires, les postes de police et les hôpitaux. Le nombre exact de morts résultant des opérations militaires reste flou et toutes les estimations proviennent de rapports d'organisations de défense des droits humains. Le dernier en date fait état de 500 morts, civils et militaires confondus. J'ai tenté de contacter la direction de la sécurité de Latakié par téléphone, mais ils n'ont pas fourni de chiffres officiels sur le bilan des victimes. À Damas, on observe une augmentation notable des patrouilles et des points de contrôle sécuritaires dans les principales artères de la ville. À ces barrages, l'identité des personnes interceptées est vérifiée et leurs véhicules fouillés. Mohamed Erami, Damas, RFI.
Et ce soir, la France dit condamner ces exactions contre des civils et des prisonniers. Un golf en Écosse appartenant à Donald Trump visé la nuit dernière par des militants pro-palestiniens. Ils ont notamment peint « Gaza n'est pas à vendre » sur la pelouse. À Londres, un homme a escaladé ce matin la célèbre tour où se trouve l'horloge de Big Ben en brandissant un drapeau palestinien. La Russie revendique des avancées dans la région de Koursk face à l'armée ukrainienne. Cela intervient alors qu'une délégation ukrainienne de haut niveau, composée notamment de ministres, rencontrera une équipe américaine mardi prochain en Arabie Saoudite. Or, Kiev espère utiliser son contrôle de quelques centaines de kilomètres carrés de la région russe comme monnaie d'échange lors de pourparlers. Avec la fin des livraisons d'armes américaines à Kiev, l'armée ukrainienne peut-elle tenir? Oui, estime Nicolas Tinzer, directeur de la publication de la newsletter et du site Desk Russie.
Oui, on en sent les conséquences. Quand on voit un certain nombre de bombardements, on s'aperçoit que le renseignement dans la profondeur, c'est-à-dire observer ce qui se passe en territoire russe du côté des lanceurs de missiles, devient beaucoup plus difficile. Mais là aussi, je pense que les Européens vont renforcer quand même considérablement leurs opérations de surveillance, notamment satellitaires, et qu'ils vont tout à fait être en mesure de remplacer aujourd'hui les États-Unis. Ça prendra peut-être un peu de temps, il va y avoir quelques mois de soudure sans doute extrêmement compliquée pour les populations civiles ukrainiennes, mais il n'y a pas de raison que nous ne soyons pas capables. Il y a quand même, je dirais, une capacité européenne qui est absolument considérable à partir du moment où les Européens prennent les décisions nécessaires.
Propos recueillis par Romain Lemaresquier. Le Soudan du Sud dans une régression alarmiste qui pourrait anéantir des années de progrès vers la paix. L'affirmation est de l'ONU en raison des nouveaux affrontements dans l'état du Haut-Nil, l'état le plus jeune de la planète, riche en pétrole, extrêmement pauvre pourtant, et miné par les luttes de pouvoir, la corruption, les conflits ethniques. Hier, un hélicoptère des Nations Unies qui tentait de secourir des soldats dans la région du Nord-Est a été ciblé par des tirs. Un membre d'équipage a été tué et deux autres blessés. Les États-Unis ont officialisé leur retrait du fonds pertes et préjudices créé à la suite de la COP28 sur le climat. Eh bien, il dédommage les pays en développement à la suite de catastrophes causées par le réchauffement climatique. Or, comme premier émetteur historique de gaz à effet de serre, les États-Unis avaient une responsabilité dans cet organisme, Simon Rosé.
Le fonds pertes et préjudices est une demande ancienne des pays en développement, les moins responsables du réchauffement climatique et pourtant les plus exposés. Les dégâts engendrés par les événements climatiques extrêmes pèsent lourd sur leurs économies, confrontées également au fardeau de la dette. Le but du fonds, alimenté par les pays les plus riches, est donc de les dédommager pour leur permettre d'avoir la possibilité d'investir afin de s'adapter aux conséquences du dérèglement du climat. Cela se fera donc sans la contribution des États-Unis. Après avoir longtemps fait preuve d'obstruction lors de la création du fonds, ils le quittent officiellement temps, 2 mois seulement après le début de ces opérations. Washington s'était engagé à n'y verser qu'un peu plus de 16 millions d'euros, c'est peu, très peu, mais la présence, même symbolique, du pays le plus responsable historiquement du changement climatique était importante. Ce retrait risque en effet d'enrayer une dynamique qui a déjà bien du mal à prendre. À date, seuls 27 pays se sont engagés à contribuer au fonds pertes et préjudices à hauteur de 683 millions d'euros. C'est 0,2% des pertes auxquelles sont confrontés chaque année les pays en développement à cause du réchauffement climatique.
Les suites des élections législatives en Allemagne qui ont vu Friedrich Merz accéder à la chancellerie. Il lui faut maintenant gouverner et comme son parti n'avait pas obtenu la majorité, il lui faut composer. Son bloc CDU-CSU et les sociaux-démocrates concluent aujourd'hui des discussions préliminaires en vue de former un gouvernement de coalition. En France, les 150 rassemblements et manifestations organisés à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes ont rassemblé quelques 120 000 personnes à Paris et au total 250 000 en France, selon le collectif Grève Féministe. La préfecture, elle, parle de 48 000 manifestants à Paris. Marie Cazadebet était à la place de la République à Paris, justement.
Sur leur pancarte, Julie et Sandrine, deux amies quadragénaires, ont dessiné une voyante. Elles se penchent sur une boule de cristal. Ce qu'elle y voit est inquiétant.
Des trucs pas terribles, un monde un peu en chaos, enfin voilà.
Ce qui a joué, c'est Trump, sa politique hyper violente envers les femmes, son bouffon, hein, d'Elon Musk, et tout ce qu'ils font en fait, et c'est ça le chaos, et c'est de ça qu'on a peur, parce que eux, ce sont des vrais représentants purs et durs du patriarcat. Bah, moi j'ai dit, réveillez-vous.
Un appel entendu par de nombreux hommes, comme Maxime, 47 ans, venu avec sa famille.
Les violences envers les femmes, ça suffit. Enfin voilà, maintenant on peut plus tolérer ce genre de choses. Donc voilà, pour nous c'est important d'être là tous ensemble avec nos femmes et une partie de nos enfants, quoi.
Un peu plus loin, un groupe d'adolescentes de 15 ans, elles se considèrent trop jeunes pour constater un retour en arrière, mais elles observent tous les jours qu'il y a encore des progrès à faire.
C'est encore tellement compliqué, par exemple, de faire entendre sa voix quand on a vécu un viol. Il faut encore se battre et que c'est très loin d'être fini.
Pour ces collégiennes, le changement doit passer par l'éducation des garçons pour qu'elles n'aient plus à se protéger d'eux.
Reportage de Marie Cazadebet, place de la République dans la capitale française. 6 Français sur 10 sont favorables au rétablissement d'une forme de service militaire obligatoire. C'est ce qui ressort d'un sondage du Centre de réflexion Destin, publié par le quotidien régional Ouest-France. Les Républicains sont favorables à cette mesure à 72%, le Rassemblement national à 77%. LFI ferme la marche avec seulement 35% d'opinion favorable. L'hypothèse qui n'est pas évoquée actuellement par le gouvernement, compte tenu de la montée des bruits de bottes en Europe et de la guerre en Ukraine, eh bien cette hypothèse a d'autant plus de partisans que l'âge augmente. 72% des 65 ans et plus sont pour le rétablissement d'un service militaire obligatoire. Manifestation et contre-manifestation au sujet de l'A69. Plusieurs milliers de partisans de l'autoroute se sont rassemblés sur son tracé aux abords de Castres. Cela pour donner de la voix et défendre un projet essentiel, disent-ils, pour leur région. Le bon sens, c'est qu'on finisse les travaux, clamait-il. Ce rassemblement a eu lieu un peu plus d'une semaine après l'arrêt du chantier décidé par la justice. Dans le Vendée Globe, tous les solitaires sont maintenant à terre. Pied à terre, pied ferme, hors délai, mais peu importe, le Belge Denise Van Venberg a terminé son premier tour du monde en 117 jours en arrivant tout à l'heure au Sable d'Olonne.
Tout du 11 novembre à il y a une demi-heure. Même la manœuvre pour affaler, c'était super chaud, quoi. Si je me viande, je suis à la plage. Ça aurait été une vraie histoire belge. Donc voilà, non, tout était compliqué, dur. J'espère que tout le monde n'a pas eu un Vendée Globe aussi dur parce que sinon je comprends pas pourquoi ils reviennent, quoi. Honnêtement, il faut être maso, mais après il faut pas lâcher. J'ai failli abandonner. Puis à chaque fois j'arrive à avancer, donc je me dis ok, je continue. Et puis finalement c'est passé, donc incroyable, tu vois, le petit Denis Van Weinberg, là j'arrive, je sais pas combien de personnes, il y a plein de monde qui est là pour m'accueillir. Enfin, je me rends pas compte en fait, c'est vrai que ça fait 15 jours que je me suis un peu coupé de tout, et là c'est vrai que c'est un bain de foule, et puis je vais avoir plein de gens que je connais, voilà. Et je vais pleurer toute la journée sans doute, donc, mais c'est pas grave. C'est pas mal de pleurer pour ça, voilà.
Et le navigateur qui clôture donc définitivement le 10e Vendée Globe, remporté par Charlie Dalin, c'était à la mi-janvier. Venons-en maintenant à l'actualité sportive. Babacar Diarra, il y avait du rugby cet après-midi à Dublin et le 15 de France reprend la main à une journée de la fin du tournoi Destination.
Les Bleus ont conquis l'Aviva Stadium et fait tomber l'Irlande chez elle 42-27, l'Irlande qu'il dépasse au classement. La première mi-temps des joueurs de Fabien Galthié était mitigée avec un avantage 8-6 et surtout une sortie sur blessure au genou pour le capitaine Antoine Dupont. Mais ce coup dur n'a pas écrasé le moral des Français qui ont déroulé pour finir avec 5 essais contre 3 pour le 15 du Trèfle. Entré en jeu à la place de Dupont, le demi-mêlé Maxime Lucu s'est parfaitement intégré dans le fil du match.
Je m'étais préparé à rentrer à n'importe quelle minute, comme je le disais, comme peut-être pas du tout, et à n'importe quel poste aussi. Voilà, la blessure d'Antoine nous a fait un petit peu mal et il fallait reprendre le flambeau et juste rester dans la stratégie qu'on avait mis en place. Aujourd'hui, je pense que c'est le collectif qui a primé, mais ils m'ont beaucoup aidé par rapport à ça. Mais en tout cas, on était préparé à n'importe quelle éventualité et ça a payé aujourd'hui.
À noter aussi que Damien Penaud a inscrit l'un des essais français et le voici désormais co-meilleur marqueur d'essais en équipe de France avec Serge Blanco.
Oui, il en est à 38.
Exactement.
En football, le PSG et Lille sont de sortie en championnat aujourd'hui entre leurs deux matchs des huitièmes de finale de la Ligue des Champions.
Les Parisiens victorieux il y a quelques instants, 4-1 à Rennes. Ils n'ont pas eu la tâche aussi facile que ne le dit le score. Le doublé d'Ousmane Dembélé en toute fin de rencontre donne une ampleur trompeuse à l'écart entre les deux équipes. Et entre parenthèses, Liverpool s'est aussi imposé 3 jours avant le match retour face au PSG. Les Reds ont dominé Southampton 3-1 avec un doublé de l'Égyptien Mohamed Salah sur penalty. Et pour revenir à la Ligue 1 en ce moment, Lille, l'autre club français engagé en C1, reçoit Montpellier 0-0 pour le moment.
Et ce soir, l'Olympique de Marseille tentera de conforter sa deuxième place en Ligue 1. Cela avec la réception d'une équipe en manque de confiance, à savoir le Racing Club de Lens.
Il y a urgence pour Lens après 4 défaites de rang. La dernière en date, le week-end dernier, à domicile face au Havre, 4-3. L'attaquant lensois Florian Sotoka pense que la force collective affichée lors de cette défaite permettra aux nordistes de repartir de l'arvin.
Ça fait râler, c'est difficile à encaisser, forcément. Mais voilà, je trouve qu'on a, retrouvé l'identité du RC Lens sur ce match-là. Voilà, on voulait les presser, on voulait les mettre à mal. Je pense que c'est ce qu'on a réussi à faire. Même eux, à la fin du match, ils se demandaient comment ils avaient pu le gagner. Donc forcément, c'est rageant parce qu'on avait mis tout en œuvre pour réaliser un bon match. Quand vous avez 4 défaites d'affilée, ben forcément, vous avez beaucoup de questions à se poser. Mais on va dire que ça fait partie du jeu. Et quand vous êtes dans le dur, ben faut se serrer les coudes tous ensemble, que ça soit supporters, dirigeants, joueurs, staff. Compris. Donc voilà, c'est à nous de se serrer les coudes, de ne pas tirer les uns sur les autres et de rester positif malgré tout, même si c'est difficile.
Marseille-Lens, c'est ce soir au Vélodrome à 20h05, temps universel.
Dans moins de 2 heures donc. Avant de s'affronter pour leur manche retour en Ligue des Champions, les deux leaders de Bundesliga ont vécu une contre-performance aujourd'hui.
Le Bayern Munich a subi sa deuxième défaite de la saison en championnat, la première à domicile face à Bochum, une équipe qui lutte pourtant dans la course au maintien. Bochum s'est imposé 3-2 en Bavière. Les Munichois conservent tout de même leurs 8 points d'avance car Leverkusen, deuxième, s'est aussi incliné à domicile devant le Werder Bremen, vainqueur 2-0. Leverkusen et Munich s'affronteront mardi pour la manche retour en 8e de finale de Ligue des Champions avec un avantage 3-0 pour le Bayern.
Babacar Diarra pour les sports.
RFI Soir, Philippe Lecaplin.
L'actualité des médias avec tout d'abord la grève au journal Le Parisien. À Amaury de Rochegonde, ce mouvement a été déclenché pour protester contre un plan de départ touchant près de 40 personnes.
Oui, la direction a annoncé mi-février la suppression de 39 postes exactement, dont 29 à la rédaction, soit près de 10% de l'effectif, dans ce qu'elle appelle un projet de modernisation de l'organisation. Comme beaucoup de quotidiens régionaux, Le Parisien perd de l'argent, 34 millions d'euros, et compte tenu des projections qu'il fait en termes d'abonnements numériques et d'audience, il lui faut passer par un plan de départ volontaire. C'est ce qui explique cette grève qui a été décidée jeudi et qui est assortie d'une motion de défiance envers la direction. Une direction qui se justifie en expliquant que malgré près de 100 000 abonnés numériques pour une diffusion journalière de 190 000 exemplaires, Le Parisien ne parvient pas à compenser ce qu'il perd sur le papier par des revenus numériques. Un classique des difficultés des quotidiens et qui justifie les économies.
Et la contestation des salariés a aussi à voir avec l'identité de l'actionnaire qu'est Bernard Arnault.
Oui, alors la mobilisation ne le vise pas explicitement, même si la rédaction s'est plusieurs fois inquiétée pour son indépendance, notamment en 2023 lorsqu'elle a pointé une dérive éditoriale trop favorable à l'exécutif pendant la réforme des retraites. Cette fois, ce n'est plus une question éditoriale, quoique ce plan arrive 5 ans après 30 suppressions de postes liées à l'arrêt des 9 éditions départementales du Parisien qui sont aujourd'hui regroupées dans un unique cahier Île-de-France. La direction rappelle que l'actionnaire a essuyé les pertes et qu'il ne peut pas soutenir indéfiniment un journal qui creuse les déficits. De son côté, une majorité de la rédaction pense que Bernard Arnault a les poches suffisamment profondes pour soutenir le quotidien dans ses missions locales et investir dans sa relance.
Et quant à la relance numérique, elle implique de nouveaux modèles.
C'est vrai, c'est ce que dit Pierre Louette, le patron du groupe Les Échos, Le Parisien, pour qui il faut continuer à produire de mieux en mieux des contenus qui seront achetés, choisis, qui provoqueront des abonnements. En clair, il s'agit de créer des articles ou des vidéos qui se transforment directement en revenus. C'est ce que cherchent aussi Sud-Ouest et Le Télégramme, où l'on investit dans la production vidéo. Au Midi Libre, une centaine de correspondants locaux menacent de déposer la plume après avoir vu leur tarif baisser. Le danger, c'est que soit de plus en plus délaissée l'information locale. C'est ce qu'on a vu aux États-Unis, où un tiers des journaux locaux ont disparu en près de 20 ans. Cela crée des déserts de l'information et un électorat trumpiste.
Analyse et commentaires d'Amaury de Rochegonde. Faisons maintenant connaissance avec Élisée Odia, une figure bien connue du paysage médiatique congolais. Pendant 13 ans, on l'a vue à la télévision, avant qu'elle ne travaille pour le média en ligne 7sur7.cd. Aujourd'hui, elle dirige son propre média, yabisonews.cd, où cette passionnée de politique, qui ne mâche pas ses mots, s'attire parfois des inimitiés. Alors comment vit-elle cette pression? Elle le raconte à Passion Ligaudi.
Avec plus de 250 000 abonnés sur X, anciennement Twitter, Élisée Odia est une voix qui compte. Ses interviews avec des figures politiques de tous horizons et ses analyses génèrent des milliers de vues sur les plateformes numériques. Mais ce qui la distingue vraiment, c'est sa signature, son style bien à elle.
Il y a d'autres qui sont exclusivement dans la présentation des faits. Mais moi, je ne suis pas que dans la présentation des faits. Il m'arrive de temps en temps, et voire régulièrement, de donner un avis sur un sujet d'actualité ou sur un sujet de société.
Mais cette liberté de ton a un prix. Dans un climat politique de plus en plus polarisé en RDC, Élisée Odia est la cible d'insultes, de harcèlement et de menaces en tout genre.
C'est plus en 2019, au lendemain des élections de 2018, que moi, par exemple, en 2019, j'ai retrouvé qu'il y avait mon adresse sur les réseaux sociaux. Et ensuite, 2019, 2020, 2021, ça s'est un peu enchaîné avec vraiment des menaces comme ça, d'être violé, d'être tabassé. C'est qui va se concrétiser quelques temps après, parce que en 2023, effectivement, j'ai été tabassé quand même par un groupe d'individus.
Aujourd'hui, sa liberté de ton sur les réseaux ne rime plus avec liberté de mouvement. Et Élisée Odia en est pleinement consciente.
J'essaie d'identifier dans le contexte congolais les endroits où je suis pas vraiment la bienvenue. Et j'ai toute une liste, je sais que, et c'est triste pour moi de dire qu'aujourd'hui, dans certains coins, que je ne peux plus y aller, parce que c'est susceptible pour moi d'être victime d'une violence physique ou d'une violence verbale.
Et ce qui lui fait le plus mal, dit-elle, c'est de voir ses proches subir eux aussi les conséquences de ces menaces.
Moi, je me rappelle une fois, j'ai vu ma mère rentrer à la maison parce qu'ils ont entendu les gens, il était parti au marché. En rentrant à la maison, il était en pleurs parce qu'ils ont entendu des gens en train d'imaginer de me faire du mal. Donc, dans ce contexte, il n'y a pas que vous en tant que journaliste, mais il y a également vos proches qui subissent également des traumatismes beaucoup plus virulents que vous.
Élisée Odia n'est pas seule dans cette situation. Les rares journalistes congolaises influentes sur les réseaux sociaux sont-elles aussi la cible de harcèlement, aussi bien par des comptes anonymes que par des personnes bien identifiées? Et pourtant, malgré l'entrée en vigueur il y a 2 ans du Code du numérique qui criminalise le harcèlement en ligne en RDC, la justice ne suit pas. Face à cette impunité, Élisée Odia et ses consoeurs trouvent parfois du soutien auprès d'organisations comme Journalistes en danger, partenaires de Reporters sans frontières. Mais là encore, les ressources restent limitées et souvent inadaptées face à l'ampleur des menaces.
Patient Ligaudi à Kinshasa, où RFI s'écoute sur 105 FM. Autre fréquence.
Abidjan, 97.6 FM.
Abidjan, Côte d'Ivoire, à l'occasion de la Journée mondiale des femmes, intéressons-nous à des personnalités qui tentent de percer dans des domaines traditionnellement réservés aux hommes, comme l'aviation. La Côte d'Ivoire compte 8 contrôleuses aériennes. Minta Ndiaye est allée à leur rencontre.
Nous sommes dans la tour de contrôle de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Micro en main, Huguette oriente un pilote sur le point de décoller.
Je parle avec les pilotes. Ils me demandent la mise en route, c'est-à-dire ils sont prêts pour le départ. Et moi, je m'assure d'abord que la piste est libre avant de lui donner l'autorisation de rouler, de s'aligner et de décoller.
Cette contrôleuse gère le trafic et la circulation, en particulier les départs et les arrivées des avions. Un rôle qui demande rigueur et concentration.
On n'a pas droit à l'erreur. On tient en main des vies humaines. L'erreur est impardonnable. Donc ça demande plus de concentration, plus de vigilance.
À ses côtés, Kema prend le relais.
Moi, en tant que contrôleur approche, je dois faire des calculs pour établir les normes, les distances entre les avions, pour ne pas qu'ils se croisent.
Cette contrôleuse a les yeux rivés sur son radar et sur plusieurs petits bouts de papier contenant les informations de chaque avion. Après des études scientifiques, cette jeune a brillamment obtenu un concours pour intégrer une école de contrôleurs. Passionnée par l'aviation, Kema doit aujourd'hui bien s'organiser pour trouver un équilibre.
C'est une question d'organisation. Être contrôleur, c'est savoir se gérer parce que tu gères la vie des autres. Donc tu dois apprendre toi-même à t'organiser. Donc tu dois trouver du temps. Du temps pour le travail, du temps pour ta famille, du temps pour pouvoir étudier, à bosser, pour avancer.
Ces deux jeunes ont bénéficié des conseils d'une femme aguerrie, Jocelyne Dia. Du haut de ses 30 ans de carrière, Jocelyne est contrôleuse de route de la SECNA. Elle supervise plusieurs unités et elle tente en parallèle à son échelle d'encourager les lycéennes à s'orienter vers ce métier.
Ce sont les filles qui ne sont pas prêtes à faire ce métier, c'est ce qu'on a constaté. Elles trouvent que c'est trop contraignant. Je leur dis, faire ce genre de métier qui est généralement dédié aux hommes, quand une femme le fait et qu'elle excelle, elle est très respectée dans la société. Et c'est une émancipation morale qui est faite du côté des femmes. Donc il faut qu'elles viennent et qu'ensemble, on puisse développer le secteur.
Même message d'encouragement porté par l'Union des femmes de l'aviation de Côte d'Ivoire qui rassemble près de 700 membres. Binta Diagne, Abidjan, RFI.
Alors qu'il est 18h22 en temps universel.
Philippe Le Caplain.
C'était le 13 avril 1975. Un bus transportant des Palestiniens a été pris pour cible à Beyrouth par des miliciens chrétiens. Et cela avait provoqué la guerre civile libanaise qui a duré 15 ans. Marwan Shahin revient sur ce qui s'est passé voilà quasiment 50 ans dans un livre qui a pour titre 13 avril 1975, Autopsie d'une étincelle. Marwan Shahin qui en dit plus à Nicolas Feldman.
Bonjour Marwan Shahin.
Bonjour.
Déjà première question, pourquoi avoir choisi de travailler sur ce massacre du 13 avril 1975 ?
Alors cet événement du 13 avril 1975, ce qui est très étonnant, c'est que tous les Libanais le connaissent et pourtant personne ne sait ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Et moi, c'est ce qui m'a interpellé quand je suis arrivé au Liban en 2015. Donc je connaissais un peu l'histoire du pays, mais pas plus que ça. Et j'ai découvert que donc cet événement qui est considéré comme l'événement déclencheur de la guerre n'avait jamais été réellement documenté. Même à l'endroit où il a eu lieu, il n'y avait pas une plaque commémorative pour dire « ici a commencé la guerre civile libanaise ». Donc j'ai essayé de comprendre en fait ce qui s'était passé ce jour-là et les raisons de l'amnésie. Donc j'ai commencé par écrire un petit article à l'occasion des 40 ans du début de la guerre civile. Je me suis rendu compte qu'en fait on pouvait savoir plein de choses contrairement à ce qui était généralement dit. De fil en aiguille, je me suis laissé entraîner dans cette enquête qui a pris presque 10 ans de ma vie.
Oui, une enquête qui devait durer 2 semaines et donc qui a duré une décennie. Pour mener cette enquête, vous exhumez des articles de presse, vous ressortez des rapports de police, vous partez à la recherche des protagonistes et des témoins. Vous parvenez à rétablir des faits, mais il est difficile, voire impossible, d'établir une réalité, une vérité sur le déroulé du drame. Comment expliquer ces difficultés ?
Alors, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est le fait que c'est un événement qui a aujourd'hui 50 ans. Et donc, du coup, ça commence à remonter un petit peu. Mais par ailleurs, il n'y a pas d'archives. Donc, c'est essentiellement du bricolage et recouper des témoignages. Si certains sont sans doute fondés, d'autres sont réinventés, volontairement ou pas. Et donc, voilà, c'est un peu difficile parfois de trier le bon grain de livret, quoi.
D'ailleurs, à ce propos, Marwan Shahin, vous écrivez « Au Liban, il n'y a pas de mémoire de la guerre, mais une guerre des mémoires », c'est ça aussi la difficulté dans votre travail ?
Oui, c'est la difficulté et l'intérêt aussi, je crois, parce que en fait, après la fin de la guerre qui s'est terminée en eau de boudin, il n'y a pas eu de travail de réconciliation nationale. La raison principale, c'est qu'il y a eu une loi d'amnistie qui a replacé les seigneurs de guerre dans le jeu politique et institutionnalisé d'une certaine façon l'amnésie. Et du coup, chacun est reparti avec sa mémoire dans son coin, sans qu'on se mette d'accord. Sauf que ces mémoires dont chacun a hérité, c'est des mémoires assez belliqueuses qui sont d'une certaine manière la continuation de la guerre par d'autres moyens. Donc, c'était un peu tenter de dépasser cette aporie qui m'a intéressé dans cette affaire. Et je crois que j'avais aussi envie de montrer toutes les mémoires déformées qu'il pouvait y avoir de ce même événement, pour montrer à la fois cette difficulté assez importante dans le pays.
Ce livre, il est paru en septembre 2024. Comment est-ce qu'il a été reçu au Liban? Est-ce que vous avez eu des retours?
Alors, il est sorti dans un contexte un peu particulier, puisqu'il est sorti à quelques semaines de l'offensive israélienne sur le Liban. Donc, du coup, les gens avaient aussi beaucoup plus l'esprit au présent qu'au passé, entre guillemets. Après, il a eu, des premiers retours que j'ai. Je sais qu'il s'est bien vendu au Liban. Et j'ai reçu beaucoup de messages de Libanais, des messages très touchants de gens qui étaient contents qu'on parle de la guerre et qu'on en parle d'une autre façon. Pas seulement à reproduire les récits héroïques qu'on avait dans les familles, mais à trouver une autre manière d'en parler. Et beaucoup de gens de tout âge et de tout bord, et c'est ce qui m'a beaucoup touché, m'ont écrit pour me dire qu'ils étaient heureux qu'on parle de cette histoire qui est un peu la leur.
Vous donnez aussi beaucoup de vous dans ce livre qui est écrit à la première personne. Vous faites part, bien sûr, de vos avancées, mais aussi de vos doutes tout au long de votre enquête. Plus qu'une enquête, est-ce que c'est aussi une quête personnelle, ce livre ?
Oui, vous avez raison. Je pense que c'est une quête-enquête, ce qui n'était pas le but initial, mais assez vite, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas rester complètement en dehors, dans la mesure où j'étais moi aussi une de ces mémoires libanaises tourmentées, et que je pouvais pas non plus demander aux gens de me donner beaucoup de leur personne sans donner de moi-même et sans m'exposer moi-même. Donc voilà, et au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'à travers ces gens, c'est à ma propre histoire qui me renvoyait.
Merci beaucoup Marwan Chahin.
Merci à vous.
13 avril 1975, autopsie d'une étincelle, un livre publié par les éditions Belfond.
Paris 89 FM.
Paris, où à la Comédie Bastille est donnée la pièce de théâtre intitulée L'affaire Corneille-Molière. Il s'agit d'une enquête qui entraîne dans un tourbillon temporel de 1672 à 1968. Cette année-là, un professeur de la Sorbonne évoque la théorie selon laquelle Corneille aurait écrit les pièces de Molière. À tout le moins, est-ce que Molière a plagié Corneille dans certaines de ses pièces à succès? Car il y a de grandes similitudes d'écriture entre les deux grands écrivains. Marc Tourneboeuf a enquêté sur ce mystère historique avant d'écrire la pièce.
Je suis allé lire les profs de la Sorbonne, qui sont eux tout à fait moliéristes, qui pensent que Molière a écrit, et qui, pour eux, il n'y a pas de doute. Ils disent, bon, en fait, c'est de la grosse fake news, évidemment, Corneille n'a rien à voir là-dedans. Et puis après, de l'autre côté, il y a les philosophes, les avocats, ils sont des tonnes à avoir écrit sur le sujet, à avoir creusé la question, et force est de constater que, après des centaines, et si ce n'est vraiment des milliers de pages de lecture, bah, le doute demeure intact, vraiment, parfaitement.
Vous avez quand même une intime conviction?
Non, j'ai l'intime conviction d'avoir lu ce qu'il fallait pour apporter une autre réponse. Dernièrement, des chercheurs qui se sont penchés avec l'intelligence artificielle, avec des récurrences de mots, de lettres, etc. Eh bien, aujourd'hui, ça penche plus d'un côté avec les ordinateurs, mais malgré tout, toutes les études ne vont pas dans le même sens.
Le mystère demeure donc sur cette énigme dont les protagonistes sont Molière, Corneille et aussi Racine. Racine qui pourrait avoir tout manigancé. Comme si déjà à l'époque, il y avait eu des réseaux sociaux avec leur flot de calomnies et d'intox.
L'alexandrin en 12 est devenu le binaire en 0-1, mais en fait, effectivement, quand on lit aujourd'hui encore les pièces de Molière, on reconnaît tout à fait, non pas les ordinateurs qui évoluent, non pas nos habits, mais bien la nature humaine qui est donc la jalousie, l'avarice, nos péchés, nos envies. On peut toujours retrouver un même homme à travers les siècles qui passent. L'ego, parce que c'était aussi une nécessité vitale, que de briller, resplendir dans cette société où notamment les artistes avaient peu de moyens. Donc briller, avoir une bonne place auprès du roi à la cour, c'était vraiment plus que quelque chose.
Marc Tourneboeuf, l'auteur de l'affaire Corneille-Molière qui est joué à la Comédie Bastille jusqu'à la fin du mois de juin. Vous écoutez RFI, à suivre l'actualité en Afrique.
Religion du monde, Véronique Guémard.
Comment se reconstruire lorsqu'on a été victime d'agression sexuelle par une personne représentant l'Église catholique ? Pour la première fois, une journée mémorielle était organisée à Paris entre jésuites de la Compagnie de Jésus et victimes, un partage d'émotions et de récits qui peuvent aider à la libération de la parole d'autres victimes.
Religion du monde, avec Véronique Guémard.
Dimanche, à partir de 10h10 TU.
RFI.